Vous êtes toujours sur Canal Sud, le 92.2 de la bande FM, c'est le magazine, et c'est l'heure de retrouver la chronique du Theta Lab, le bit et le couteau. Alors, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
On est bien content de vous retrouver pour la rentrée. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on avait préparé, avec Florent qui n'est pas là pour l'occasion, une partie actualité et les dossiers qu'on avait... qu'on avait fait cet été, donc il y a une partie sur le CCC, un festival qui a eu lieu à Berlin pour les hackers cet été, et on va aussi parler un peu de la Novella, c'est un festival qui a lieu à Toulouse au mois d'octobre.
Super, et on peut aussi préciser qu'il y a désormais un chat en direct accessible à tous nos auditeurs qui peuvent poster des commentaires.
Voilà, donc si vous vous connectez sur canalsud.tetalab.org, vous pourrez participer à l'émission en posant vos questions ou en discutant avec les autres personnes qui sont en train de suivre l'émission.
Très bien. Eh bien, le message est passé, et puis je vous propose de commencer tout de suite par un petit peu d'actu alors.
Donc une des actus un peu techno qui rejoint sur les sujets qui avaient été abordés précédemment, qui mettaient en lumière un petit peu la neutralité des réseaux, c'est une proposition, alors je ne sais pas si c'est vraiment une proposition, parce que je ne sais pas si on aura le choix de choisir ou pas, sur la fin de l'Internet illimité en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train de se préparer une entente entre donc trois opérateurs dont on ne citera pas les noms, mais qui sont les trois poids lourds un petit peu dans l'industrie de l'accès au réseau, qui sont en même temps des opérateurs mobiles et Internet. Et donc le but, ça va être d'instaurer des quotas de connexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez votre connexion, on va prendre le prix moyen qui est de 30 euros, même si certains le dépassent allègrement. Et grâce à votre prix mensuel, vous avez accès à tout l'Internet et en débit illimité. C'est-à-dire que si vous voulez passer nuit et jour, enfin vos nuits et vos journées, à échanger des dossiers, à discuter, etc., tout ça est traduit par du débit qui aujourd'hui n'est pas limité. C'est-à-dire que vous pouvez échanger autant d'informations que vous le souhaitez pour le même prix. Cette entente donc porte donc à instaurer des quotas qui seraient fixés donc en termes de débit en gigas d'échange, en gigaoctets. Et passer ce quota, soit vous achetez de la consommation supplémentaire pour pouvoir continuer à vous connecter à Internet, soit votre ligne est coupée et vous attendez le mois suivant donc pour pouvoir la réutiliser.
D'accord, donc on a en fait affaire comme un forfait pour mobile, donc forfait bloqué ou tarification hors forfait, quoi.
Voilà.
Et on viendrait un peu dans le modèle des années 90, où à l'époque on payait l'heure d'Internet avant que Free arrive sur le marché.
D'accord.
Donc on repart 15 ans en arrière, voilà. Bien.
Donc tout ça pour des motifs bassement économiques, j'imagine, ou...
Alors... Essentiellement, c'est des motifs économiques. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui sont sur notre, qui sont calqués sur notre modèle d'Internet illimité. Et donc, la consommation moyenne étant relativement basse en termes d'échanges sur l'Internet, l'usage de base.
En France.
Ils se sont dit, ben pourquoi pas arrêter l'Internet illimité et revenir, par exemple, comme c'est le cas en Belgique, où passer une certaine tranche, il faut racheter du crédit, quoi. Donc c'est un grand pas en arrière, et sachant que ça peut être, bien sûr, détourné comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au début, on va fixer des quotas en termes d'échange, puis ensuite, on vous vendra pour tranche de 5 euros un accès spécial pour 10 heures, etc. Donc on revient à nouveau sur cette problématique de neutralité des réseaux. Alors qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui, on ne sait pas, parce que donc, ces trois opérateurs mobiles et internet bien sûr disent que non. Sur certains communiqués où on les prend un petit peu en flagrant délit, sur certains documents qu'ils échangent en interne, on leur pose des questions. Alors soit ils répondent à côté, soit ils agitent le spectre de « on n'a pas assez de débit dans nos tuyaux pour continuer Internet illimité ». Enfin, bon, bref, chacun y va de son charabia. Et on a donc notamment le trublion du net, hein, l'opérateur à quatre lettres avec Xavier Niel à sa tête, qui, lui, forcément, s'il continue la politique du groupe, est contre ça, parce que c'est quand même lui qui a instauré l'internet, enfin le principe de box 3 en 1, puis avec un forfait fixe et tout qui est limité, etc. On ne sait pas comment est-ce que lui va réagir. En fait, ça dépend surtout de sa réaction à lui. Parce que certains cadres en interne avaient laissé entendre, j'essaie de juste me rappeler la phrase qui disait « nos concurrents sont suicidaires, on les adore », en parlant du fait de revenir à un internet fragmenté. Ensuite, si ça commence à être encadré par des lois ou quoi que ce soit, ils pourront pas faire grand-chose.
Ils n'auront pas vraiment le choix.
Non. Donc voilà. Donc en gros, pour l'instant, on est en situation d'attente. On peut pas vraiment réagir, nous, à notre portée. On n'a pas la même mise sur ça, quoi.
Ben oui, on ne peut pas vraiment contrer les fournisseurs d'accès Internet, puisque sans eux, pas d'Internet.
Voilà.
Alors, il existe quand même des solutions. Je pense par exemple à GlobeNet, qui propose des connexions gratuites sur le prix du téléphone, en fait, mais c'est des modems 128K, quoi.
Après... Il y aura aussi la solution au cas où les opérateurs phares reviennent sur un internet fragmenté, ben de passer sur des opérateurs associatifs, sur des FAI, fournisseurs d'accès internet associatifs, tels que par exemple à Toulouse, au hasard d'État neutral. Donc voilà. Ensuite, si ça devient réglementé et obligé donc de fonctionner sur un internet fragmenté, des solutions alternatives seront proposées, mais pour l'instant, voilà, on est un peu dans l'expectative.
Ah, d'accord. Va falloir attendre le texte de loi pour le contourner.
C'est ça.
D'accord, très bien. Et ben, j'imagine qu'il y a plein d'infos à trouver sur Internet. Peut-être un endroit, un site où cette info est résumée de façon un peu, enfin, concrète et intéressante.
Il y a le site numerama.com qui s'occupe beaucoup de toutes ces questions liées à la liberté du net, et ovni.fr aussi qui fait parfois des grands articles sur qu'est-ce que l'internet. Donc en particulier, ils ont fait un dossier sur la fin de l'internet illimité qui a un peu lancé le débat par rapport à ça.
Ok, donc ovni, c'est ovni.fr. Ok. Très bien.
Ensuite,
il y avait, Florent aurait très bien pu nous en parler, un deuxième point d'actualité, c'est sur une circulaire sur la mise en place de la loi LOPSI 2. Donc une circulaire a été diffusée fin août au ministère de la Justice, permettant l'utilisation de Keylogger. Donc les Keylogger, c'est des petits logiciels qui permettent d'enregistrer, quand vous tapez sur le clavier, d'enregistrer tout ce que vous tapez. Et donc le ministère de la Justice a mis en place, ils autorisent à partir de maintenant l'utilisation de ce genre de logiciel pour, je ne sais pas trop dans quel cas ils peuvent l'utiliser, mais en gros, je pense que en tout cas, ça se met en place. Donc voilà, la loi LOPSI 2 commence à se mettre en place, donc par des applications de décrets comme ça.
D'accord, donc ça c'est un logiciel qui avant était interdit d'utilisation, au moins, enfin... complètement interdit sûrement par les pouvoirs publics, et maintenant ils ont le droit donc de s'en servir pour éventuellement fliquer, savoir ce que tu tapes dans ton moteur de recherche préféré ou dans tes emails privés.
Donc je pense qu'à un niveau judiciaire c'était pas valable jusqu'à présent, et la LOPSI 2 permet à un niveau judiciaire de reconnaître en tant que preuve les données issues d'un Keylogger. Donc avec tous les problèmes que ça inclut, par exemple, la plupart des Keyloggers aujourd'hui sont reconnus comme des virus par n'importe quel antivirus. Parce que c'est des logiciels qui existent déjà. Et voilà, donc comment dire à l'antivirus que ce Keylogger du ministère de la Justice n'est pas un virus, et, c'est plein de trucs assez sympas.
Et d'accord.
Florent nous dit qu'avant, ils n'avaient pas le droit d'installer des softs sur les ordinateurs des gens. Ils avaient seulement le droit de surveiller le réseau par rapport à cet ordinateur.
Ok, et un peu la même question, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, disons que c'est un peu, ça va devenir un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on avait une une première ébauche qui avait été, qui spécifiait que en cas de commission rogatoire, donc, une équipe pouvait donc, s'introduire chez vous, donc une équipe mandatée pour s'introduire chez vous, et donc poser un keylogger qui était matériel, donc à l'intérieur ou à l'extérieur de votre ordinateur, donc à votre insu bien sûr, mais matériel. Maintenant, la grosse différence, c'est que cette même équipe peut le faire sans votre autorisation, à distance et de manière logicielle. C'est-à-dire que ça va être beaucoup moins détectable par Madame Michou, et c'est beaucoup plus pernicieux parce que on ne connaîtra pas vraiment les limites. Donc certes, il y aura un décret disant comment est-ce que on est autorisé ou dans quelle situation à demander la pose de ce genre de logiciel, mais c'est comme d'habitude, c'est toujours le même schéma, quoi. Au début, on part d'une cause exceptionnelle, donc on aura bien sûr du terrorisme, enfin voilà, tous les étendards qu'on nous agite habituellement, et ensuite, bien entendu, ça va s'étendre. Ça va s'étendre aux cyberdissidents, ça va s'étendre au contre-pouvoir, ça va s'étendre
aux journalistes, comme cet été avec l'histoire des facturettes.
Voilà, les factures détaillées de France Télécom. Voilà, on va avoir des moyens de flicage qui sont moins détectables par le commun des mortels, et qui vont être beaucoup plus facilement utilisables par les forces, je vais pas appeler ça les forces de l'ordre, parce que le terme ordre, ce serait de l'ironie, mais par les forces judiciaires.
Ok.
Donc voilà, pour nos amis journalistes, ça va être sympathique.
C'est réjouissant, oui, en effet. Et bien ensuite, vous aviez une petite actu sur Apple ?
Oui, sur Alex, sur Apple, Apple Adobe et FDN. Alors,
je tombe dedans. Donc Adobe a récupéré des compétences qui le font obliger à ouvrir les spécifications des DRM pour qu'il y ait des logiciels libres. Alors j'ai pas trop eu le dossier par rapport à Apple. En gros, d'après ce que j'ai compris en lisant l'article qui était disponible sur Numérama, c'est que Apple demande le retrait d'un décret Adobe, et du coup ça lui permettrait de faire, et
là j'ai... de continuer. En fait, les DRM sont des mesures de protection sur les logiciels, donc DRM pour Digital Right Management, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, et une des spécifications d'Adobe, c'est de rendre un des points sur lesquels Adobe était placé, c'était de rendre les spécifications, donc c'est-à-dire la recette de cuisine de ces DRM public, pour que on puisse créer des logiciels libres, etc. Par rapport à ça, donc notamment, donc ces DRM qui sont sur des fichiers avec qui sont sur des fichiers copyrightés, et donc pour avoir un petit peu la recette, ce qui permet bien sûr à Adobe de continuer à mettre le nez, ne pas avoir de zone d'ombre dans tous les fichiers qui sont protégés par le droit d'auteur, qu'ils soient distribués par Apple ou par Orange, etc. Le problème, c'est que ça ne plaît pas à Apple, puisque Apple a encore beaucoup de DRM à son catalogue, sur iTunes, etc. Donc, c'est là où c'est amusant, c'est qu'on a une grosse multinationale qui attaque un décret d'État, donc une multinationale américaine.
Qui va gagner ?
Alors, on ne sait pas si ça va gagner. Si ça gagne, c'est qu'on a un peu le lobby industriel qui prendra le pas sur certaines lois.
Alors, c'est eux-mêmes qui l'ont certainement proposé.
Donc on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner, sachant que en même temps, donc FDN, qui est French Data Network, qui est un fournisseur français, qui est très en phase avec la quadrature du net, etc. Donc pour défendre les libertés numériques, attaque en pareil des décrets Adobe qui sont un petit peu les fondements de l'institution, de la loi, etc. Donc tout ça se passe aujourd'hui.
Alors attends, tu dis attaque, c'est-à-dire...
Donc ils ont posé des recours.
Recours en justice, ouais.
Pour D'accord. faire annuler certaines parties du texte qu'ils jugent anticonstitutives. Oh là là, je perds ma syntaxe après ma 8e bière, c'est triste. qui jugent anticonstitutionnelles. Et le problème, c'est que ces décrets font partie des piliers de la base fondamentale d'Adobe.
D'accord.
Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, parce que comme disait Benjamin Bayard, le président de FDN, si on gagne, on casse tout, quoi. Donc s'ils gagnent, si leur recours est pris en compte,
Adobe en entier qui risque de passer
à la trappe.
À la trappe.
Donc ça fait deux batailles très intéressantes, une pour le lobby industriel et pour voir un petit peu quelles sont les implications, qui va avoir le pas, comment est-ce que l'État français va réagir par rapport à ça, et une pour des militants de la neutralité du réseau qui vont essayer donc de casser les fondations. Donc aujourd'hui est un grand jour. On aura les résumés en fin de journée, hein, une fois que tout sera passé.
Enfin, je pense j'imagine que c'est des dossiers qui sont quand même assez longs.
Ça va être long. Mais voilà, enfin, ce qui est intéressant, c'est que des associations, donc CFAI comme FDN, la Quadrature, etc., attaquaient Hadopi depuis le début. Hadopi qui avait été jugé en anticonstitutionnel, j'y suis arrivé cette fois-ci, pour lequel Reporters sans frontières nous avait passé sur la liste des pays en surveillance, par rapport aux libertés fondamentales, etc. Et de voir qu'en même temps, on a un lobbying qui attaque Hadopi, voilà. L'important, c'est de voir comment est-ce que le côté citadelle imposée qui était Hadopi, qui se retrouve assiégé maintenant, comment est-ce que ça va réagir, si ça va craqueler, où est-ce que ça va craqueler.
Donc, ça va faire mal.
Ça risque, ça risque. À moins qu'il réfute tout d'un bloc et que pouf, quoi. Et qu'on reparte comme en 40. Enfin, voilà, que ça continue sur sa lancée. Donc, à voir. Ça, c'est le côté actualité qui est intéressant pour notre futur, quoi.
D'accord. Eh bien, je vous propose une petite coupure musicale avant de passer au dossier, si ça vous convient. Et on va s'écouter Yogi Datta, un artiste qui fait du circuit de bending et qui est passé hier en concert à l'Émergence. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Toujours en plein dans le magazine de Canal Sud, c'est l'heure de la chronique Le Bit et le Couteau, et on retrouve tout de suite les dossiers.
Ok, donc pour les dossiers, on vous a préparé un dossier sur le CCC, le Chaos Communication Camp, qui a eu lieu du 10 au 14 août 2011, et où Stéphane et moi, on est allés voir au moins plus de 3000 autres hackers. Donc c'est une conférence qui a lieu tous les 4 ans, organisée par le Chaos Computer Club, c'est un club de hackers qui vient de fêter ses 30 ans cette semaine, donc il existe depuis le 12 septembre 81, et depuis quelques années, plus même, depuis les années 90, ils font des campings pendant l'été, une fois tous les 4 ans, et voilà, donc c'était l'été, il fallait y aller, sinon il faut attendre 4 ans. Et c'était assez, voilà, c'était assez génial. J'ai découvert le mouvement hacker il y a 4 ans à ce festival justement. Et voilà, les 4 dernières années, j'ai fait que le tour de ce genre de festival. Et c'est vrai que celui-là est particulièrement dense et avec beaucoup de monde, beaucoup d'expérience. Chacun vient avec son petit hack, soit un petit hélicoptère ou des trucs beaucoup plus gros avec des lumières et des lasers. Et voilà, c'est un camp vraiment social où on rencontre beaucoup de monde de partout dans le monde, où il y avait des gens de partout en Europe, même des États-Unis et d'Amérique du Sud, je sais pas, d'Afrique. Et voilà, donc voilà, donc on s'est vraiment bien amusé pendant une semaine là-bas. Et on a donc un des projets principaux de ce festival, c'était le badge Rocket. C'était un badge qui était distribué avec le billet d'entrée et qui permettait à chacun d'avoir donc c'était un badge sous une forme de petite fusée qui était un badge électronique. Et donc sur ce badge électronique, vous aviez un mini écran Nokia, enfin un écran normal de Nokia des années 90, avec juste en dessous un petit joystick pour pouvoir sélectionner des trucs dans le menu. Et avec ce badge, il était possible de communiquer avec les autres badges grâce à un petit réseau wireless sans fil et de faire tourner des applications sur ce badge. Donc par exemple, une des applications, c'était le Space Invader. On pouvait jouer tout seul, on pouvait jouer sur son badge le Space Invader et le score était partagé sur le camp.
Alors attends, il distribuait un badge comme ça à tout le monde?
À tout le monde, ouais. Donc c'était un projet, donc c'était exactement le cas typique du projet que t'as mené au camp. Donc il y avait des gars qui avaient bossé depuis 6 mois sur ce projet pour l'amener au camp. Et voilà, et du coup c'était le super projet que tout le monde avait, quoi.
En classe.
Et classe, ouais. Et du coup aussi, comme tout le monde avait son badge et comme tout le monde veut bidouiller et avoir son propre badge, il y avait à la fin du festival, pendant la conférence de fermeture, il y avait toute une partie sur comment les gens ont hacké leur badge pendant le festival. Donc il y avait beaucoup de trucs artistiques avec par exemple quelqu'un qui avait fait une coque pour sa fusée. Donc il avait incrusté sa fusée dans la coque qu'il avait imprimée avec une imprimante 3D. Il y avait quelqu'un qui avait rajouté des LED en dessous de la fusée pour faire comme si la fusée enfin comme si c'était une vraie fusée avec des flammes et pas mal de trucs dans le genre, quoi. Donc le projet est vraiment intéressant.
Oh, c'est cool, ça.
Ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que chaque année, le Chaos Computer Club, en fin d'année, donc fin décembre, entre le 26 et le 1er janvier, organise donc une série de conférences qui s'appelle le Chaos Communication Congress, qui se passe à Berlin. Et donc là, c'est 3-4 jours de conférences, avec bon, des ateliers, etc., au Palais des Congrès de Berlin, enfin au Centre des Congrès. Et l'avantage de le faire hors les murs, c'est-à-dire que là, le cadre, depuis 2 ans, c'était sur une base désaffectée de l'ex-RDA, une base aérienne, qui était reconvertie en musée de l'aviation. Donc on se retrouvait dans les hangars à avions, donc il faut imaginer de grands hangars qui font plusieurs, enfin je sais pas, ils devaient faire 4, 5, 6 mètres de haut facilement, recouverts de 1,5 mètre de terre pour amortir l'éclat d'obus, etc., où dedans on avait 600 personnes qui suivaient une conférence, dehors il y avait des lumières de partout, que ce soit le jour, la nuit, etc. On marchait presque sur les drones en passant. Tout plein de gens qui, dans leur tente, faisaient des ateliers sur de la liaison sans fil, sur du bricolage avec du GSM, sur du GPS, etc. Des gens qui tenaient des ateliers chaque jour pour faire découvrir la soudure, etc., aux personnes qui n'y connaissaient pas, qui étaient là juste en touriste. Beaucoup de designers aussi qui venaient un petit peu, qui s'intéressaient à tout ce côté do-it-yourself et interactivité qu'ils peuvent apporter à leur projet, qui étaient là juste en spectateur et qui posaient plein de questions. Donc au final, c'était une sorte de gros festival bien sympa, à mi-chemin entre la conférence et la fête de la bière. Et donc une ambiance vraiment sympathique, et bien sûr sur un fond un petit peu de recherche, parce qu'on n'est pas là, si on se retrouve, si on fait des milliers de bornes, etc., pour y venir, c'est pas pour se taper la nouille et faire que boire des bières, quoi. Donc on échange énormément, on apprend des techniques, on se met à jour sur les projets des autres, on fait des projets en commun, etc. Et chaque année, donc tous les 4 ans, ce camp lance une thématique. Donc la dernière fois, c'était sur la création des hackerspaces, donc d'où est issu le Theta Lab, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une conférence où il y avait donc 3-4 personnes qui ont dit « bah écoutez, il existe des lieux où tous les bricoleurs, les artistes, les designers se réunissent pour travailler ensemble, pour bosser sur des projets, pour en créer d'autres, et des sortes de réservoirs d'idées qu'on met en incubation, et donc il sort des choses, d'où qu'il sort, ça c'était français, d'où il sort des choses nouvelles sous un angle pas préformaté, pas quelque chose qu'on apprend à l'école ni quoi que ce soit. Ils ont donné un petit peu donc l'envie et une sorte de guideline.
Ouais, voilà, les recettes pour refaire. C'était des gens qui avaient déjà fait un hackerspace dans leur ville, dans leur coin. Et du coup, ils avaient déjà les recettes, ils s'étaient déjà posé la plupart des questions que n'importe qui va se poser quand on vient se demander comment on va monter un hackerspace dans une ville, quoi. Donc quand on a monté le Theta Lab, on a regardé ces recettes, on avait la réponse à la plupart des questions qu'on se posait. Et donc c'était en gros, il suffit de faire un copier-coller et c'est pas plus très compliqué, quoi, une fois que quelqu'un a déjà fait, de reprendre le principe.
Et de l'enrichir. Donc des rencontres bien, enfin c'est bien didactique, quoi, en fait. C'est pas mal pour apprendre plein de trucs, quoi.
Voilà.
Ouais, monter les projets. Et tout.
Voilà, la communauté hacker, par définition, sont des gens qui ne sont pas spectateurs, sont des gens qui vont faire les choses, etc. Et suite à cette conférence qui a donné envie, en fait, à beaucoup de personnes de monter un hackerspace et de se dire, j'ai pas envie d'être juste avec mes potes dans le salon un samedi par mois, quoi. Il y a moyen de rencontrer tout plein de gens de ma ville qui sont aussi intéressés comme ça. Donc plein de hackerspaces sont montés. Résultat, 4 ans plus tard, donc cette année, ils ont fait un peu le bilan, il y avait plus de 900 hackerspaces à travers le monde, quoi. Et tout ça qui découle de leur thématique de 2007, quoi. Là, cette année, la thématique, c'était un projet sur les 23 prochaines années.
Ah oui.
Voilà. Donc ça, c'est un peu un gros projet. Et c'est en
construire
liaison...
Construire une fusée.
Non, pas non. Tout à fait. En fait, c'est en liaison par rapport à ce qu'on disait, toutes les problématiques de takeover un petit peu des différents gouvernements, de reprendre le contrôle du net, de ne pas le laisser à cette poignée de dissidents, anarchistes, terroristes, pédophiles, nazis, etc.
Oui, ça c'était un peu ma question, ouais. C'était aussi l'occasion de prendre la température au niveau des libertés justement liées au net un peu partout dans le monde.
Voilà, donc
ce projet.
Ce sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que le mouvement hacker n'existerait pas s'il n'y avait pas eu toute cette liberté d'échange. Et le projet donc, qui a été proposé cette année, pour les 23 prochaines années, c'est de monter... nous-mêmes, donc nous les différents hackers autour du globe, de créer notre propre réseau indépendant de satellites de télécommunication pour créer notre propre internet qui ne soit pas soumis à un contrôle étatique, en fait. Donc pour s'affranchir des règles qu'on nous impose, de la neutralité des réseaux, etc., pour avoir un espace libre, protégé par nous-mêmes, de manière à ce que personne ne puisse dire j'ai de l'argent dedans, ou j'ai un intérêt, ou je vous ai aidé pour ça, bah, du coup je vais faire passer telle loi, quoi. Et pour nous revenir à la fameuse image du Minitel 2.0, comme disaient les gens de la quadrature du net, quoi. Donc ça, c'est le projet pour les 23 prochaines années, c'est s'affranchir de toute prise de contrôle gouvernementale en développant notre propre réseau. Et donc ça passe par développer notre propre réseau en termes de couverture Wi-Fi, ça passe par développer aussi nos propres satellites pour qu'on puisse être interconnecté avec d'autres personnes au travers le monde. Donc ça, il y a eu beaucoup de conférences. Du coup, il y a eu beaucoup de conférences qui étaient liées à ça, que ce soit pour de la fabrication de fusées, que ce soit pour des conseils pour optimiser les rendements énergétiques des satellites dans l'espace, etc. Donc ça a été un peu la ligne conductrice des conférences cette année, tout en laissant bien sûr la place à plein d'autres choses. Mais voilà, on a beaucoup de gens qui sont venus parler de comment est-ce qu'ils mettaient une charge en orbite, comment est-ce qu'ils faisaient pour faire des fusées qui pètent à 40-50 km de haut pour moins de $150. Ou quoi que ce soit.
Ah oui.
Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec ça ? Donc voilà, donc ça aussi c'est un projet à suivre parce que ça peut être une bonne réponse.
Ouais, c'est un côté bon, on reprend un peu tout à zéro et on recommence quelque chose qui sera mieux foutu quoi, et qu'on laissera, on laissera peut-être moins corrompre aussi.
Même sans recommencer, je pense qu'il y a pas mal de gens, en particulier à Toulouse, qui font, qui travaillent déjà dans ce domaine et qui se demandent justement comment ils pourraient utiliser leurs connaissances pour ce genre d'activité. Où il y a beaucoup de gens qui bossent dans le modèle aéronautique ou spatial, là dans le coin, pas loin. Et il y a des gens déjà, du monde qui fait ça bien. Pour, par exemple, l'année de sciences pour éduquer les enfants à ce genre de technologie. Et voilà, donc ça existe déjà, il faut juste mettre. Voilà, c'est, là pour l'instant, c'est diffuser l'information pour mettre tout le monde au courant qu'il y a un nouveau projet pour les prochaines années.
D'accord. Et il a un nom ce projet ?
Non.
C'est Hacker Space Programme, je crois qu'il l'appelait.
Oui.
D'accord.
Mais il n'y a pas de nom de code opération Mercury ou quoi que ce soit. On y va plus comme ça. La première phase, en fait, ça va être de réunir les compétences. Comme on le dit, ici, on a une ville aérospatiale, Toulouse. Il y a des gens, comme Alex le citait, de l'association Planète Science, qui sont vraiment énormément compétents dans tous les programmes de ballons stratosphériques, etc., de lancement de fusées. Et tous ces gens-là, ben, c'est des passionnés qui font ça sur leur temps libre et ils seraient potentiellement intéressés, ou d'autres personnes, pour rejoindre ce genre de programme. Sachant que là, on parle que de Toulouse, mais il y a des milliers et des millions de villes à travers le monde qui ont, pareil, des compétences comme ça. Donc le but, c'est d'abord, dans un premier temps, de faire un gros gather, un rassemblement des expériences, et ensuite on va commencer à monter des projets, on va avoir des échanges d'informations, des échanges de recettes entre guillemets sur comment faire les choses, et puis on verra bien quoi.
Ouais, c'est comme à l'époque du mouvement Hackerspace il y a 4 ans, ça a mis à peu près un an et demi, disons ça s'est mis en place en plusieurs étapes quoi. Il y a eu les premiers 6 mois où entre l'été et la conférence de décembre il y avait déjà des gens qui ont essayé des trucs. Après ça, l'année d'après il y avait encore plus de gens qui avaient essayé des trucs, du coup ça a vraiment grossi petit à petit grâce à des recettes, et voilà, ça va se passer à peu près pareil, je pense, des gens qui vont essayer des trucs dans leur coin, qui vont dire à tout le monde que telle ou telle solution ça marche trop bien, et voilà.
L'avantage, c'est qu'on est sur une de nos bases de fonctionnement de ce mouvement, c'est justement l'échange libre de connaissances. Alors à partir de là, la progression, à partir du moment où on n'a pas inventé la roue, on n'a pas à réinventer à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, la progression est spectaculaire. Ouais. Donc on y croit, on verra bien, et en tout cas, voilà, il y a des milliers de personnes à travers le monde qui sont motivées par ça, qui sont pas là pour faire de l'argent dessus, mais qui sont juste là un petit peu dans une optique de laisser un meilleur monde à leurs enfants que ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui à ce niveau-là, quoi. On peut pas le changer, mais on peut essayer de faire ce qu'on peut, quoi. Quand on a la volonté, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas.
Ouais, à suivre, donc. Intéressant.
Ensuite, par rapport à ce CCC, qu'est-ce qui s'est passé de plus
Juste pour faire un peu de pub, on veut rappeler aussi que, vu qu'on s'inspire beaucoup du CCC, on fait un festival comme ça qui a lieu tous les ans au Theta Lab, ça s'appelle le THSF, et qui a lieu en général fin mai. Donc là, c'est la rentrée, ça va commencer à se mettre en place. L'année prochaine, il y aura je pense, à peu près le même type de festival avec beaucoup moins de personnes, mais donc c'est inspiré de ce genre de truc. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à venir, on vous rappellera d'ici fin mai.
Ça marche, rendez-vous est pris. Et c'est tout pour le CCC ? Enfin, moi, j'imagine qu'il y aurait beaucoup de choses à dire.
Ouais. On pourrait, là, après, on pourrait en parler longtemps, mais...
Mais il fallait y aller.
Voilà, il faut y aller. C'est des événements, c'est dur à les décrire. On peut parler de l'orientation globale, des différentes personnes qu'il y avait, etc. Mais le mieux, c'est de les vivre. Hein. Donc, voilà. Ça, c'était pour le CCC. Et ensuite, on va enchaîner sur la novella.
Ouais. Donc, la Novella, c'est un festival qui a lieu du 7 au 23 octobre 2011 à Toulouse. Donc, c'est le festival des savoirs partagés. Et.
Ravitaillement. Voilà. En direct et en plein air.
Donc, le Theta Lab participe à ce festival dans deux occasions. Donc, il y aura au musée des abattoirs une performance. qui s'appelle Dégénératif, qui aura lieu le vendredi, samedi et dimanche du 21 au 23 octobre, donc le vendredi à 15h, le samedi à 19h et le dimanche à 18h, au musée des abattoirs, avec donc c'est une performance vidéo avec des designs génératifs et des dispositifs interactifs et de la danse et des diodes et des vidéoprojecteurs. Donc, voilà.
D'accord, tout un programme.
Et un autre truc sera l'atelier robot avec l'occasion de monter ses propres robots. Sera au grand hall de l'université Paul Sabatier le 14 et 15 octobre. Donc le 14 c'est scolaire, mais le samedi 15 octobre vous pouvez venir toute la journée apprendre à monter votre propre mini robot. Donc on est parti sur un design qui s'appelle le Bristlebot, où c'est une. On prend juste la brosse de la brosse à dents. Donc on enlève le manche, on met un petit moteur dessus avec une batterie, et quand vous collez tout ça et que vous le mettez sur la table et que ça se met en route, ça fait des petits robots qui vont se balader sur une table, ou là ce sera une arène en particulier, qui vont se balader tout simplement, quoi. Et dessus on mettra une carapace, chacun pourra dessiner sa propre carapace sur des balles de ping-pong. Et voilà, on s'attend à ce que ce soit assez marrant. On aura des gros robots assez sympas, donc une machine pour imprimer sur des œufs ou des balles de ping-pong, et une imprimante 3D qu'on devrait recevoir d'ici là.
Et c'est organisé par qui cette novella?
La novella, c'est organisé par la mairie de Toulouse.
D'accord.
Et, voilà. Donc, l'atelier robot, c'est en particulier science animation, planète science et petit débrouillard, et voilà.
Une initiative avec des clés USB sur la
aussi, oui,
de Toulouse. Hop, attention, reconnexion.
C'est bon. Voilà, il y a eu un groupe qui s'appelle La Moustacherie. Donc si vous allez sur lamoustacherie.fr, qui a fait une exposition dans Toulouse il y a une semaine à peu près, en cachant des clés USB, à peu près une trentaine de clés USB, dans les murs de Toulouse. Donc c'est un truc qui existe depuis à peu près un an et demi, et le concept c'est qu'on vient avec son ordinateur, on se colle à la clé, et on regarde qu'est-ce qu'il y a comme information sur la clé, et on peut en mettre ou en prendre. Et le problème qu'il y a eu il y a un an et demi, c'est qu'ils mettaient directement les clés USB dans le mur, et il y a 15 jours, j'ai fait le tour de ces clés qui avaient été mises l'année dernière à Toulouse, donc il y en avait 14 à peu près qui existaient à l'époque. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des clés avaient disparu ou avaient été cassées. Je pense que ça doit pas mal frustrer les gens quand ils voient une clé USB dans un mur et qu'ils ne peuvent pas la retirer. Du coup, juste avec un coup de poing dessus, ça dégage. Le bon plan là, de la moustacherie, c'est dans leur nouvelle exposition. Donc à chaque fois, ils font une expo avec des photos et des choses à découvrir sur la clé. Ils ont utilisé une fiche d'imprimante. Donc une fois que la clé est mise dans le mur, il faut venir avec son câble USB d'imprimante pour connecter à l'ordinateur. Et l'avantage de ce mécanisme, c'est qu'on ne peut pas casser la clé normalement dans le mur.
Elle est dans l'autre sens, en fait.
Voilà, elle est dans l'autre sens, c'est moins accessible pour donner des coups de poing dedans.
Coincé entre les murs en briques de Toulouse.
Exactement, et les gouttières, et ça ressemble pas mal à Geocaching, qui est un jeu de découverte de trésors dans la ville, où là on cherche un trésor numérique et on sait à peu près sa position, et on a une photo de l'endroit où elle est posée, mais il faut quand même un petit peu chercher sur les murs pour trouver l'embout sur lequel se pencher.
D'accord, alors comment on fait pour repérer ces clés, en fait?
Donc sur lamoustacherie.fr, dans leur blog, ils ont une carte des clés qu'ils ont posées à Toulouse.
D'accord.
Donc j'ai déjà fait le tour, c'est des clés de 1 giga, il y a à peu près 300 mégas de données de la moustacherie, des expositions de la moustacherie avec les photos et les sons. Et il reste 700 mégas pour venir mettre ce que vous voulez sur les clés ou faire des jeux en cachant des choses sur les clés.
Et ça va rester en permanence, quoi.
Le plus longtemps possible. Il y a déjà sur leur carte, il y a déjà 3 clés qui sont cassées. Donc c'est bien indiqué sur la carte.
Après, ça vient d'une initiative artistique qui était les Dead Drop.
Voilà, qui était un mouvement qui a été commencé au Hackerspace de New York, à Nice Resistor, par Bray Petis. Et quand quelqu'un a une idée comme ça et qu'il l'a sorti les dernières sur Internet, ça a parlé à tout le monde. Et du coup, ça a vraiment explosé en 15 jours. Quoi. Tout le monde s'est mis
À cacher des clés USB
partout. À cacher des clés USB partout dans le monde. Et ça continue d'ailleurs avec des gens qui continuent à cacher des disques durs dans des briques et des trucs comme ça, quoi.
D'accord. Voilà.
Donc le phénomène d'AirDrop, c'est aussi assez ancien. Ça, avant d'exister en clé USB, c'est, je crois que c'était des choses pour utiliser, pour s'échanger des messages dans le style service secret ou s'échanger de la drogue dans le style dealer de drogue. Et, bref, c'est un concept qui existe depuis longtemps. Ouais.
Les boîtes aux lettres mortes.
Exactement. Ouais.
Très bien, bah ouais, bah c'est sympa ça comme projet aussi.
Ensuite, je pense qu'on va passer à clôturer ça avec la session de questions.
Ouais.
Ça a été posé sur le chat.
Il y a eu donc des questions ?
En direct live de l'internet mondial. Donc, il y a une question qui s'appelle Debian ou Ubuntu ? Alors, Debian était une distribution Linux, Ubuntu aussi. Je pense qu'il n'y a vraiment qu'une seule réponse par rapport à ça. C'est que nous, vraiment, en qualité du Theta Lab, on recommande Windows. Donc, on vous enjoint d'utiliser des systèmes informatiques fermés, parce que tout ce qui est open source, etc., on n'a pas vraiment confiance. Et voilà, donc jeter Debian, jeter Ubuntu, acheter Windows.
Surtout que Windows vient d'annoncer sa version 8 hier, c'est dommage que Vincent soit pas resté pour nous en parler.
Voilà, donc on aurait beaucoup aimé vous faire un dossier sur Windows et promouvoir à quel point, vous dire à quel point Windows c'est trop bien, etc. Là, on va être pris par le temps, donc on va pas pouvoir.
Disons juste que 400€ pour un CD dans une boîte, c'est quand même incroyablement génial.
Ah oui, franchement, c'est génial et puis ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Hein. Ça sert à rien d'aller prendre des systèmes qui font la même chose et qui en plus sont gratuits. Ma maman a toujours dit qu'on peut pas avoir confiance en quelque chose qui est gratuit.
Qui pourrait même vous permettre de vous mettre en relation avec des inconnus qui pourraient vous donner des conseils.
C'est ça. Restez, achetez Windows.
Soyez responsable, achetez Windows.
Restez avec ça. Ensuite, deuxième question.
Deuxième question, c'est quel est le but du Theta Lab ? Quel est le but du Theta Lab ? Qui c'est qui a posé cette question ? Je pense que c'est Mickaël. Mm-hmm. Le but du Theta Lab, c'est de se retrouver entre passionnés au sens large. Donc, rencontrer d'autres passionnés, pouvoir discuter en binaire avec des gens qui comprennent le binaire et des choses comme ça.
Donc, troisième question, c'est est-on obligé d'être gay pour en faire partie, donc du dit Theta Lab ? Non. Par contre, si vous supportez le fait de discuter nouvelles technologies avec 20 barbus enfermés dans un conteneur et boire de la bière, bah, vous êtes les bienvenus. Pas obligé d'être gay pour ça. Donc ça clôt nos trois questions.
C'était notre première expérience sur le pad. J'espère, vu comment ça s'est bien passé, j'espère pouvoir recommencer ça un de ces jours.
Eh bien oui, c'est vrai qu'on pourrait rappeler que les questions peuvent se poser donc si vous vous connectez sur internet au canalsud.thetalab.org et que vous aurez accès ainsi à un pad qui vous permettra de poser des questions.
Voilà, on tient juste à rappeler les rendez-vous du Theta Lab, qui sont des rendez-vous hebdomadaires, qui se passent à Mixar Miris. Et donc Mixar Miris, qui est à côté des Ponts Jumeaux, qui est une sorte de ferme artistique, comme un petit peu le principe des pépinières d'entreprise, mais là c'est pour les artistes. Voilà. Et donc c'est tous les mercredis soirs. À partir de 20h30, 21h.
Plutôt 21h pour être sûr qu'il y ait du monde. Et vous allez à Mixar Miris, c'est la 12 rue Ferdinand Lassalle. Et vous rentrez, donc n'hésitez pas à rentrer, en général il y a du monde dehors. Et vous rentrez dans l'entrepôt, vous allez jusqu'au fond et vous allez voir forcément plein de monde.
Et si vous voulez être sûr qu'on ne vous jette pas des disques durs usagés, venez avec des bières.
Aussi.
Voilà.
Et vous avez peut-être une adresse de site à nous rappeler ?
Donc le site web du Theta Lab, c'est thetalab.org. Quoi d'autre ? C'est tout.
On laissera nos auditeurs chercher sur leur moteur de recherche préféré, peut-être.
Voilà, et microsoft.com,
voilà.
Notre sponsor principal.
Ça marche. Bon, et bien merci beaucoup.
Merci.
Et on vous retrouve, on espère, dans 3 semaines, pour la prochaine chronique, le bit et le couteau. Cette fin de chronique va sceller la fin aussi de ce magazine du mercredi 14 septembre. pour ce qui est des programmes de l'après-midi, on va vous laisser tout de suite en compagnie de notre meilleur ami, le programmateur de musique automatique, avant de retrouver à 18h les petits papiers et le magazine de 19h. On vous laisse en musique. Bon après-midi à l'écoute de Canal Sud, le 92.2.